Il y a 100 ans, en 1921, les premières émissions de radio étaient diffusées depuis la Tour Eiffel. Et c'est pour fêter ce centenaire que toutes les radios du pays, sous l'égide du CSA, participent à une semaine spéciale. Europe en fait partie, évidemment. Europe qui marque l'histoire de la radio depuis près de 70 ans. C'est à travers elle, cette station et ses nombreuses archives, que nous allons raconter ce matin une grande partie de ces 100 années de radio avec l'une des grandes voix d'Europe 1. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach.
Bonjour.
Très ému que vous soyez ici dans ce studio. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous préférez poser les questions que d'y répondre.
Vous avez tout à fait raison.
Voilà. Mais c'est ce que vous faites d'ailleurs, interroger vos invités chaque dimanche, je le précise, à 19h sur CNews dans l'émission Repère.
À 17h depuis à peu près un mois et demi.
À 17h, je le note. C'est ce que vous avez fait pendant de nombreuses années ici à Europe 1. Vous avez mené l'interview du matin, animé les grandes interviews politiques. Europe que vous avez longtemps écouté avant d'y travailler. Europe que vous avez également dirigé. Tout ça pour dire que c'est une station que vous connaissez particulièrement bien. Avant de parler d'Europe 1, que représente pour vous la radio, le média radio?
Je vais le dire en deux mots, la proximité et l'immédiateté. Et pour ça, la radio est tout à fait incomparable. Et tout en faisant de la télévision, bien que la télévision ait maintenant des moyens qui permettent d'être sur le terrain, là où il faut, quand il faut, de la manière la plus directe, la radio est incomparable. Et naturellement, je l'écoute chaque matin, à la fois vous, France Inter, toutes les radios, parce que c'est un élément d'information indispensable.
Et Europe 1, maintenant, spécifiquement, qu'est-ce que ça représente pour vous, en dehors du nombre d'années que vous y avez passé?
D'abord, vous dites que c'est un anniversaire. J'ai pas 100 ans. Hein. Quand tu arrivais ici, la radio Europe 1 avait à peu près une vingtaine ou une trentaine d'années quand j'y suis rentré. Quand je viens ici, j'ai une certaine émotion, mais j'ai aucune nostalgie. J'ai une pensée émue, certes, parce que je suis dans le studio de Jean-Luc Lagardère qui, à un moment donné, repris la maison, redonné un souffle de liberté. On en parlera peut-être tout
bien
à l'heure.
Bien sûr, bien sûr. On va même entendre des archives de vous avec Jean-Luc Lagardère. Vous l'écoutiez Europe 1, vous l'écoutiez quand vous habitiez en Algérie.
Ben oui, toute mon adolescence, la radio pour moi, c'était Europe 1. Parce que, d'abord, il y avait des parasites. On n'arrivait pas à écouter la radio. Mais on écoutait surtout à partir de 22h30 jusqu'à minuit. Et là, je peux dire que j'ai énormément appris la profession, mais en même temps la vie institutionnelle, politique, les informations, grâce à une voix qui était extraordinaire pour moi et qui m'a beaucoup appris, celle de Jean-Claude Degé. Et c'est comme ça qu'on apprenait. On apprenait. D'ailleurs, je pourrais dire que tout au long de ma vie professionnelle, j'ai appris, et en particulier au début à France Inter, mais ici, pendant des années, j'ai lutté contre ma réserve, une forme de pudeur, en interrogeant chaque matin les invités dont vous avez parlé tout à l'heure. Et puis plus tard, j'ai travaillé à France Inter, et quand on y était, le principal rival qu'on écoutait minutieusement et qu'on essayait d'une certaine façon de copier, c'était Europe 1.
Alors évidemment, on ne peut pas parler d'histoire sans diffuser d'archives. Voici la première, on est en 1955.
Ici Europe numéro 1.
Hier ist Europa Nummer 1.
This is Europe number 1.
C'est le premier indicatif d'Europe 1, Europe numéro 1, 55, année de la création de la station par Charles Michelson ou Michelson, radio privée, qui connaît rapidement des difficultés, qui est reprise par un homme d'affaires, fils d'un facteur de Dordogne, Sylvain Floira. Il vous avait raconté avec son accent comment cela s'était passé, Jean-Pierre Elkabbach. C'était en septembre 1989, à l'occasion de son 90e...
Et c'était tout à fait fort de le voir, et je l'ai même interrogé avec Marcel Dassault, et la rencontre des deux est un moment exceptionnel pour moi.
Archive.
Ah oui, c'est mon enfant chéri, monsieur. Vous ne pouvez pas savoir. J'ai passé 27 ans en Europe.
Je
ne crois pas d'avoir été plus heureux que j'ai pu être ici.
Mais dites-moi, il y a une légende. Je ne sais pas si c'est vrai. Il paraît que vous l'avez visité, Europe 1, qui venait d'exister, qui avait à peine 9 mois d'exister.
C'était M. Michelson qui l'avait inventé et créé.
Oui, vous êtes promené, vous avez vu que les gens étaient plutôt sympathiques. Oui. Il paraît que vous avez dit, ben, je l'achète.
Je l'achète, absolument.
C'est comme ça.
Oui.
Vous pensiez que c'était comme un jouet, non?
Ah non.
Vous pensiez que ça allait devenir cet instrument de puissance?
Ah non, j'étais sûr que c'était très sérieux. Hein.
Ah oui.
Quand on s'adresse au public, et qu'on a le public, on a quand même une grosse responsabilité.
Quelle était l'image d'Europe 1 à la fin des années 50? Et vous voulez dire quelque chose, Jean-Pierre Elkabbach?
Non, mais je l'écoute avec beaucoup d'émotion, je me souviens, avec une voix différente. Et je me souviens de lui, j'ai assisté à une réunion avec lui, il y avait des énarques qui disaient de longs exposés. Et il les arrêtait, il leur dit « Non, mon petit, Qu'est-ce qui reste? Le gras, je veux du gras. Et voilà, mais avec son accent. Vous me dites ce qui est marqué, parce que tout de suite, Europe 1 était un modèle, avec le dynamisme et l'audace de ses fondateurs, et Maurice Siegel, vu qu'il y a un studio Siegel, c'est normal, Jacques Paoli, Jean Gorini, Georges Altschuller, André Arnault.
Louis Merlin.
Louis Merlin, et j'ai encore dans les oreilles leur voix, le chant de leur voix. Et puis il y avait un style qui était direct, qui était chaleureux, qui était mordant. C'était des grands débats. Je ne vais pas vous dire qu'il y avait trois débats, Mendès France, Michel Debré, à l'époque. Tous les grands venaient par là. Et puis c'était des reportages sur le vif, là où se déroulaient des événements et des drames, comme celui de 1968 et la guerre d'Algérie.
Exactement, la guerre d'Algérie, qui est l'enchaînement. On est en mars 62 à Alger. On est rue d'Isly. L'armée française ouvre le feu sur des manifestants pro-Algérie française. Europe 1 n'hésite pas à casser son antenne, à diffuser des flashs spéciaux et à mettre en direct ses reporters sur le terrain. C'était complètement nouveau. Attention, ce qui suit peut choquer. C'est complètement dingue, on entend halte au feu, 80 morts, 200 blessés, la fusillade de la rue d'Isly enregistrée par René Duval pour Europe 1. Entendre aujourd'hui telle scène n'est pas surprenant, encore que, mais à l'époque c'était quasiment révolutionnaire.
C'est encore bouleversant d'écouter ces moments, parce que c'était la guerre d'Algérie, c'était des Français qui tiraient sur des Français, et on voyait en même temps ce lieutenant qui criait un halte au feu qui est resté dans toutes nos mémoires liées à la guerre d'Algérie. Vous savez, les reporters à l'époque d'Europe 1 n'avaient peur de rien ni de personne. Et Europe 1, c'était une source d'informations vraie, comme une référence qui intriguait et qui inquiétait les pouvoirs publics. C'est pour ça qu'il y a eu une crise, une première crise. Il y a eu des hauts et des bas dans l'histoire formidable et valeureuse d'Europe 1. Europe 1 s'en est toujours tiré. Avant de dire la crise de 1974, parce que Jacques Chirac est venu un matin, il a décapité Europe 1, qu'il jugeait trop libre et impertinente pour lui. Mais je veux dire, il salue les copains.
Ouais.
Salut les copains.
Je vous interromps, parce qu'on va parler de salut les copains, on va parler de 1974, et on va aussi parler d'un élément fondateur pour Europe 1, mai 68, on est avec Jean-Pierre Elkabbach, et on en est ravis, Culture Média continue.
Ici, Europe numéro 1.
En compagnie de Jean-Pierre Elkabbach, il présente Repères à 17h tous les dimanches sur CNews, mais là on est pour parler des 100 ans du média radio et d'Europe 1. On l'a dit, Europe 1, c'est la radio de mai 68, celle qui rendait compte en direct quotidiennement des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre dans le quartier latin à Paris, au point que certains la surnommaient Radio Paricade et trouvaient Europe 1 trop proche des manifestants, les autorités notamment. Comment le pouvoir a réagi alors, Jean-Pierre Elkabbach ?
Mais je n'étais pas là, mais je sais, j'étais à France Inter.
Ouais.
Je sais que les pouvoirs n'aimaient pas d'entendre les reporters qui était partout, avec Julien Besançon dans les appartements, on entendait les bruits de la rue, on entendait les bagarres entre les policiers, sur les barricades avec les journalistes. Mais c'est pour ça que j'ai dit qu'au bout d'un moment, Jacques Chirac est arrivé en 1974 et d'un seul coup, il n'y a plus eu toute l'équipe qui était là et qui a été remplacée par ceux qui allait créer une grande période avec mon cher ami Étienne Moujotte, avec Gildas, Maryse, Julie, Catherine Ney, Carirou,
ouais, et Dacier,
Dacier, Jean-Claude, et que tout le monde écoutait. Et puis, avec Étienne Moujotte, nous avons créé une association qui était unique, le service public Antenne 2 et Europe 1, qui ont fait un mariage pendant 4 ans et demi. Et là, nous avons réussi des tas de prouesses. Et puis, toutes les soirées électorales pendant cette période a eu lieu entre les deux maison et rédaction.
Vous arrivez en quelle année à Europe 1 ?
En 1983.
Ouais, parce qu'en 80, ça se passait comment ici à Europe ? C'était un petit peu différent.
En 80, j'étais loin, j'étais surtout à la NPE, au chômage. Mais je sais ce qui s'est passé en 1983, quand moi je suis rentré ici avec émotion, avec une certaine crainte, il fallait être à la hauteur, et en même temps avec de la fierté. Mais le 10 mai 81, et à partir du 10 mai, il y a un nouveau pouvoir qui s'installe. La radio Europe 1 va changer de statut et elle va passer sous sous le contrôle de, comment dire, de gouvernements socialistes un peu zélés et jaloux. Et alors, les durées des journaux, qui étaient 20 à 25 minutes, tombent à 8-10 minutes. Il y a une réduction des journaux. Il y a d'autre part des éditorialistes copains-copains qui s'installent et qui remplacent les voix d'Alain Duhamel, de Jean Boissonnat. Et si vous voulez, à l'époque, plus on parlait de liberté, moins on l'appliquait. Mais ça, je peux dire que c'est un classique. Et à ce moment-là, Europe 1 a perdu une partie de son leadership, son audience et sa crédibilité.
Dans les années 80, l'État était encore actionnaire d'Europe 1 et finit par vendre ses parts en mars 86 à Jean-Luc Lagardère qui était entré au capital d'Europe 1 en 74 et à l'époque, il était interrogé par Michel Grossior, Jean-Luc Lagardère.
Je ne vous cacherai pas que j'ai un grand faible pour cette maison. J'ai tout de même contribué à un certain moment à la positionner au niveau où elle est aujourd'hui, mais on peut faire encore mieux. Et les choses évoluant, on peut faire plus moderne, être une nouvelle fois les leaders de ce qui peut être une révolution de la radio, qui n'est plus une télévision sans images, mais qui est une source permanente de communication avec les gens, où qu'ils soient. Les informations, les divertissements, beaucoup les informations à mon avis.
Vous étiez à Europe 1 en 1986, Jean-Pierre Cabache. Quel souvenir vous gardez de Jean-Luc Lagardère ?
Bon, il arrivait d'un conquérant qui a tout de suite redonné confiance à l'équipe, aux rédactions. Et les termes qu'il a employés, il faut être moderne, il faut révolutionner, etc. Il les disait en 86, mais on peut les dire encore aujourd'hui. Il y avait un esprit dès Lagardère, parce que Arnaud continue à le développer de cette façon. Et c'est la tolérance, le respect des autres, le fair play, c'est la capacité de décider, d'innover, d'accepter de prendre des risques. Et puis ces deux éléments particuliers, c'est la loyauté et la liberté. Et surtout, pas de mimétisme et pas de conformisme. Et ça, ça nous est resté tous en tête. Et il fallait le voir travailler et imposer des moments que nous avons vécu ici. Par exemple, c'est lui qui m'a demandé de lancer le rendez-vous de 8h20. On écoutait peut-être un peu, ouais. Mais il dit, faut l'écouter. Et je l'ai fait pendant 30 ans à 8h20, ce qu'on a fait, qui est aujourd'hui d'autres journalistes comme Sonia Mabrouk ou à France Inter, quelqu'un d'autre, Léa Salamé.
C'est le carrefour
aussi.
Maintenant sur toutes les chaînes.
Absolument. Moi, je me suis absenté 3 ans, ouais. Le temps de présider et de transformer la télévision publique. France Télévisions. Je peux donner une anecdote. Allez-y. À propos de Jean-Luc Lagardère. Au dernier moment, quand il s'est agi de se présenter dans ce qui était le CSA de l'époque, j'avais eu peur. Et je ne voulais plus l'aider. Et je prenais un petit déjeuner, comme je le faisais régulièrement avec Jean-Luc Lagardère chez lui. Et là, j'ai dit, j'y vais pas. Et je me suis fait engueuler comme jamais de ma vie. Et il m'avait asséné une phrase que je n'ai jamais oubliée. Un homme de Lagardère ne descend pas de cheval avant la bataille. Je suis resté à cheval.
On a parlé de l'information. On va dire un mot juste pour entendre un son, parce que je voudrais aussi qu'on parle de Coluche. Salut les copains, voici ce qu'Europe 1 avait créé.
Salut les copains, ici John.
John.
Salut les copains, ici c'est Paul McCartney.
Salut les copains.
Et voilà, c'est SNC qui recommence. On va rire, on va chanter et s'amuser.
On a peine à se représenter ce qu'était Salut les copains à l'époque. Claude François ou les Beatles qui chantent pour une émission créée en 59 par Franck Thénault, Daniel Philippe. À qui vous l'écoutiez à l'époque ?
Ah, évidemment, j'écoutais les passages. Ça a été une révolution. Ça a changé les mœurs, la musique et le comportement des jeunes. Donc il fallait l'écouter. Et puis après est arrivé, vous en avez parlé tout à l'heure, Coluche.
Ouais.
Et Coluche, je veux rendre hommage à Jacques Abergel et Jean-Yves Lannery qui s'occupaient des programmes et qui ont fait venir ici, je crois que c'était à 15h, Coluche.
Ouais.
Pourquoi je dis ils ont eu du courage ? Parce que c'était là aussi le scandale tous les après-midi.
Il venait de se faire virer sur RMC.
Ah ben voilà,
parce qu'il allait parler de la famille princière.
Voilà, mais ici, il était en toute liberté, il était transgressif, il était brutal, il était impitoyable. Et puis en plus, après, il a eu cette image humanitaire, ouais, formidable,
avec
sa générosité, les Restos du cœur.
Il était innovant, dites-vous, on parlait d'innovation il y a quelques minutes. Europe 1, c'est une radio qui a innové, qui innove encore. C'est c'est elle qui a été parmi les premières à lancer des podcasts, à installer des caméras dans les studios.
Ben oui, ça je peux dire que c'est peut-être deux anecdotes et qui traduisent aussi l'esprit d'Arnaud Lagardère dans la ligne de son père. Un jour, je lui ai proposé qu'Europe 1 place en effet des caméras dans les studios pour filmer les émissions. Et on disait comme ça, il y a beaucoup plus de retentissement, ce qu'on dira.
Plus de reprises.
Et il avait dit oui, tout de suite. Et puis, à le deuxième, parce que vous en avez parlé, les podcasts. Un matin, Marc Gonnet, qui était un collaborateur très imaginatif avec Olivier Beneuf à la technique, et les magnifiques techniciens d'Europe sont venus me dire, il faudrait créer quelque chose qui s'appelle les podcasts. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ? Ils me l'ont expliqué, et en deux mois, nous avons créé les podcasts. Et là encore, Arnaud m'a dit... Vas-y, on te donne les moyens, et c'est ce qui a été fait, après copié par d'autres radios.
Voilà, les 100 ans de la radio racontés par Jean-Pierre Lecabache, et aussi la télé, repère, c'est à 17h dimanche.
Vous répétez sans arrêt les 100 ans, mais j'étais pas là il y a 100 ans.
Je sais, vous serez la semaine, vous serez dimanche sur CNews, absolument. Vous voulez dire un mot sur CNews
j'ai envie de dire plus qu'un mot de CNews, qui est souvent attaqué.
Vous savez que ça tourne, hein, l'horloge.
Je vais vite, c'est une plaisanterie d'attaquer CNews, et je dirais même, c'est une absurdité. On dit ça imite Fox News. CNews n'a pas besoin d'imiter quoi que ce soit. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'elle est imitée. Parce qu'elle gagne en audience, elle menace le leadership de ceux qui vivaient dans le statu quo immuable. Et il y a peut-être une... Mais peut-être vous voulez me faire une critique.
Là, non, pas du tout, j'attendais. Vous m'avez dit, je veux dire quelque chose sur CNews, et j'étais extrêmement curieux de savoir ce que vous voulez dire sur CNews.
Eh bien, parce que les téléspectateurs...
Parce que c'est peu dire qu'elle est attaquée en ce moment.
Parce qu'elle est jalousée, parce qu'elle est en train de monter et de s'imposer.
Vous savez très bien ce qu'on dit. On dit que c'est une radio de droite qui donne la parole qu'à... Je me fais l'avocat de ses contempteurs, qui donne la parole qu'à... un type de parole.
Vous voyez que vous aviez quelque chose à dire, et peut-être des critiques. Elle donne la parole à tous. Et qu'on parle de Pascal Praud, il est en train de battre des records, même le soir, en contre-programmation avec les émissions de télé, les journaux télévisés. Et je parlerai d'Éric Zemmour. Mais ce que je veux dire, les auditeurs, on ne les amène pas, ou les téléspectateurs, avec des menottes pour regarder. Ils viennent parce qu'on leur parle sans maniérisme, parce qu'on ne répète pas toute la journée la même information, ce qui banalise les drames, parce qu'on organise des débats ouverts et qu'on recueille des interventions multiples et diverses. Quant à Zemmour, il reçoit Jacques Attali, Hubert Védrine, Jean-Pierre Chevènement, les gens. Si on n'est pas content de lui, qu'on vienne discuter avec lui, qu'on ose débattre avec lui.
C'est le sujet éternel. Malheureusement, on pourrait faire l'heure entière là-dessus. Merci Jean-Pierre Lecabache d'être venu nous voir. Vous serez sur CNews dimanche à 17h et on était heureux de parler de radio
avec vous. Bonne chance à Europe 1 pour son avenir.
Bernard de la Villardière.